des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Aujourd'hui, avec moi, Nathanaël Vaudouhé, artiste béninois. Nathanaël Vaudouhé est peintre, il est sculpteur sur bois, il fait des installations, des performances. Je suis heureuse de pouvoir porter un dialogue sur son travail engagé, sensible, qui a pu être vu en Europe, en France, à Paris, à la Galerie Valois, au Carrousel du Louvre et à Aka. À Nice, à La Rochelle, à Amsterdam, aux Pays-Bas, à Bruxelles, en Belgique, en Afrique, à Marrakech, à Rabat, au Maroc, à l'Institut français, à la résidence de l'Union européenne de Cotonou au Bénin, en Côte d'Ivoire. Actuellement, à la Maison Rouge, à Cotonou, avec sa nouvelle exposition cérémonielle. En 2024, il était présent parmi les artistes exposés à la Conciergerie, dans l'exposition itinérante autour des œuvres restituées par la France au Bénin. Révélation. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Fabiola.
Comment as-tu reçu cette restitution de 26 œuvres d'art pillées par la France et comment la population béninoise a reçu ce retour? Était-ce important de voir ces œuvres revenues dans leur pays d'origine?
Je dirais la restitution des 26 œuvres d'art a été pour moi, en tant qu'artiste, un moment historique. Et j'ai été particulièrement ému de voir ces œuvres revenir dans leur pays d'origine. Et pour parler de la population béninoise, vous savez, le gouvernement qui est là a essayé quand même d'ouvrir la porte de la présidence pour que notre population, le public béninois, puisse effectuer des déplacements pour voir de visu, de directement comme ça, ces œuvres-là. Et pour dire enfin que la population et nous autres aussi artistes, et c'était important pour nous que ces œuvres-là reviennent car c'est une partie de notre patrimoine historique.
Et il y avait beaucoup de monde qui était venu voir? Je veux dire, en dehors des artistes, oui.
En dehors des artistes, déjà, ça fait deux choses. En même temps, la population n'avait jamais accès à la présidence. Et ces œuvres dans la présidence a donné un engouement quand même, ce qui a permis le déplacement massif qu'on a. Je perds un peu les chiffres, sinon c'est beaucoup. Mm. Beaucoup de Béninois ont
fait. Ah, c'est la première fois que la présidence a ouverte au public?
Ah oui, au public.
Ah oui. Tu avais déjà vu ces œuvres ici, au Quai Branly?
Non, jamais. Non,
d'accord, donc pour la première fois, tu les as vues chez elle. Oui.
Oui, moi particulièrement, je n'avais jamais vu, je voyais juste des images. Mmh. Et c'est beaucoup d'émotions en tout cas.
Et comment vois-tu les grands chantiers dédiés à la mostration, à la conservation de l'art au Bénin? Il y a quatre grands musées qui sont en chantier. Il y a le musée du Vaudou en construction à Porto Novo, il y a le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, la maison de la mémoire et de l'esclavage de Ouida, un musée d'art contemporain à Cotonou, et puis d'autres lieux dédiés à la culture que j'avais lu que le Bénin entend de considérer comme le deuxième pilier de l'économie nationale après l'agriculture. Et puis... Il y a une grande importance accordée à la préservation du patrimoine immatériel qui est considéré avoir un impact important pour le tourisme culturel. Comment tu vois tous ces chantiers?
Déjà, en tant qu'artiste et en tant que Béninois, je suis enthousiaste de voir ces grands chantiers dédiés surtout à la culture et à l'art du Bénin.
Ils étaient nécessaires, tu penses?
Oui, important. Jusqu'à présent, vous savez que nous n'avons pas véritablement d'espace pour exposer. Nous, en tant qu'artistes, on n'a pas de très grandes galeries, on n'a pas de très grands espaces pour exposer. et pour aussi valoriser, vous voyez, ces œuvres qui sont rentrées, les 26 œuvres qui sont rentrées, il faut un lieu, il faut un endroit quand même pour les accueillir. Donc, déjà, le gouvernement en place est en train d'œuvrer pour que nous puissions les conserver comme ça a été toujours conservé en Europe. Parallèlement, c'est une excellente chose, hein, que le gouvernement considère aujourd'hui la culture comme un pilier de l'économie nationale. Oui.
Mais la population, elle reçoit ça comment? Parce qu'il y a plein d'autres manques.
Oui, il faut pas oublier que quand ça se passe, pas, en ce moment, la population n'apprécie pas encore véritablement. Il faut l'ouverture pour que la population puisse apprécier ce qui est en train d'être fait. Vous voyez, donc on entend parler, on voit, quand on passe, on voit que quelque chose est en train d'être fait. Mais pour que ça puisse être bien apprécié, c'est l'ouverture de ces musées-là dont on attend véritablement la finition pour bien apprécier.
Et le projet de faire du Bénin un pays touristique, ça, tu le vois comment?
Le Bénin a toujours été un pays touristique. Donc, c'est vrai, il faut des infrastructures pour accompagner. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Le Bénin a toujours été, comme je l'ai dit, un pays de culture et de tourisme. Vous voyez, donc tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour favoriser l'écosystème culturel.
Tu n'as pas l'impression qu'il y aura des choses qui vont se perdre s'il y a une avalanche de touristes? Tu n'es pas inquiet. Tu trouves que c'est plutôt une bonne chose.
Je pense que le. Vous pouvez reposer votre question, je n'ai pas bien
Oui, je
saisi.
disais, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y aura des choses aussi qui vont se perdre s'il y a un nombre important de touristes? Parce que le pays, tu dis, il a été un pays touristique, mais le nombre de
C'est
visiteurs
ça
n'est
aussi
pas si
le.
important,
Ouais.
oui.
Non, le nombre de visiteurs n'est pas important. Le plus important, c'est ce que nous on dit. C'est la conservation, la transmission. Et quand les gens sont là, cette transmission, c'est pour la différence qu'ils sont là. C'est pour voir ce que nous avons et que eux, ils n'ont pas. Vous voyez, ou ce que nous avons de commun. Et il faut pas oublier, il faut pas avoir peur du brassage aussi. Quand il y a brassage, il peut y avoir des troncages, il peut y avoir des choses qui vont disparaître. Donc, on n'est pas inquiet pour ça. On n'est pas inquiet. Et ça ne nous fait pas peur. Il ne faut pas oublier aussi que la culture, les valeurs, ce sont des choses qui évoluent. Ce n'est pas des choses figées aussi. C'est un peu ça.
Il y a Édouard Glissant, je pense que ça va un peu dans le sens celui que tu empruntes. Il disait, agis dans ton lieu, pense avec le monde. Et
Exact.
oui, et
Rappelez-moi le nom, c'est un
Édouard,
écrivain.
oui, c'est Édouard Glissant, il est martiniquais. Et Alibaba Kenja, sur un site qui s'appelle irénée.net,
Oui.
entre 2017 et 2018, il y a eu un cycle qui s'appelait Que reste-t-il du passé colonial? Une soirée de l'Université populaire de la Villeneuve autour des écrits d'Édouard Glissant. Il disait: La racine unique tue autour d'elle. La notion d'identité nous traverse tous, mais elle est remise en cause car on vit une époque où les frontières se relativisent. Glissant et Deleuze vont réfléchir au fait que l'identité n'est pas un phénomène unique. Ils théorisent deux formes d'identité. D'une part, l'identité racine unique, l'identité atavique, c'est-à-dire l'identité des peuples dominants et forts, ceux qui ont une genèse. Pour eux, la genèse est un texte sacré qui va légitimer la possession d'un territoire. Cela donne l'image du grand arbre qui pousse dans la verticalité. Sauf qu'en Afrique, un proverbe dit: À l'ombre du baobab, il ne pousse rien. Le grand arbre domine et tue tout autour. L'autre forme d'identité est le rhizome. Il part de manière incertaine, il ne s'impose pas sur la terre, il ne tue rien autour, il essaie de s'adapter au terrain, il ressurgit de manière imprédictible. Le rhizome va dans l'étendue, c'est un réseau. Et aussi, ce qui est immuable, ce que rien n'est immuable.
Exactement.
Mais après avoir situé un peu le contexte actuel dans ton pays par rapport à la culture et ces travaux qui sont faits autour, revenons à ton travail d'artiste. Qu'est-ce que l'art pour toi, Nathanaël?
Oh, là.
Je peux passer à une autre question si tu n'as pas.
Non, là pour moi, je peux.
Tu peux?
Oui. Si tu me poses la question de savoir ce qu'est là, là c'est vous et nous, hein, c'est vous et moi, c'est nous. c'est le monde. Là, c'est notre manière de vivre. Là, c'est notre manière, c'est ce que nous faisons. Notre manière de parler, là, c'est tout ce qui nous entoure. La beauté du monde, là, c'est ça.
Qu'est-ce que tu as voulu peindre à tes débuts? Quel a été ton premier dessin? Tu dessinais toujours depuis enfant?
Oui, depuis ma toute petite enfance, je dessinais beaucoup. Je faisais des dessins derrière mes cahiers, derrière je faisais des portraits. Tout ce que je voyais en mouvement, je le dessinais. Il y avait beaucoup de nuages. Et dans ces nuages-là, je voyais déjà des formes. Je voyais des mouvements que je complétais par moi-même, par mon imagination. Mais ma première peinture, c'était le portrait de ma maman. Ma première peinture, c'est différent du dessin. Parce que, vous savez, en Afrique, généralement, quand quelqu'un meurt, on choisit un tissu pour l'enterrement. Et moi, je voyais des gens le faire. Et moi-même, je me suis dit, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, il faudrait que je fasse une peinture, un portrait de ma maman avec ce tissu-là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ma première peinture. Et quand j'ai fait le portrait, ça restait des pots de peinture. Il faut que je continue, il faut que je les utilise. Et donc, commencer par peindre.
Et c'est là que tu as décidé que tu vas faire de ça ton métier?
Non, ce n'est même pas. Non, ce n'est pas encore. Après, j'ai commencé par suivre des. Vous voyez, quand on suit le journal télévisé, on voit des artistes. Donc, je voyais des artistes béninois, internationaux. Et puis, je me suis dit que, mais ceux-là, mais ils font de ça leur métier quand même. Et donc, j'ai commencé par faire des recherches. Donc, je me suis dit, OK, moi, c'est une passion pour moi. Si on peut vivre de sa passion, ce n'est que le bonheur. Donc, j'ai continué par peindre. Après, j'ai rencontré un artiste béninois qui m'a donné de sages conseils et qui m'a orienté vers la bibliothèque. Comme nous n'avons pas, je précise que nous n'avons pas véritablement une école d'art au Bénin qui puisse nous enseigner l'histoire de l'art, les bases et tout ça. Donc, lui m'a donné des conseils.
Il s'agit de Dominique Zingpin.
Exactement. Il s'agit de lui. Et ce que j'ai fait, et j'ai continué à dessiner, j'ai continué comme ça.
C'était un peu un apprentissage, un peu comme on faisait ici à la Renaissance. C'était autour d'un artiste, il y a un atelier, puis on regarde ce que l'autre fait, on lit des livres.
Oui, exactement. C'est ce qui se passe aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a la chance d'avoir Internet aujourd'hui aussi, qui nous permet de faire des recherches.
En 2013, tu gagnes le premier prix lors d'un concours, il me semble à Parakou, peut-être je me trompe, et tu obtiens une bourse...
À Cotonou.
Cotonou. Et tu obtiens une bourse de création en Chine, à l'école d'art de Gangzhou.
Oui, il y avait le concours national et l'international. Pour le concours national, j'étais premier. Pour le concours international, j'étais deuxième.
C'était ta première sortie du Bénin, il me semble, non?
Oui, c'était ma première sortie du Bénin.
Tu sors du Bénin, tu te retrouves en Chine. Alors, c'était comment? Tu as pu, j'imagine, voir le travail des étudiants dans l'école d'art, la vie, la ville. Il y avait quelque chose dans leur travail, quelque chose que tu as vu et que, comme une influence qui est restée. Il y a des choses qui t'ont parlé, des choses que tu trouvais très différentes. Comment ça s'est passé?
Oui, la Chine, c'était une expérience incroyable. C'était un choc culturel pour moi à l'époque.
Vous étiez plusieurs à partir?
Oui, nous étions cinq. Il y avait deux Ivoiriens et deux Béninois. J'ai été impressionné par la richesse de leur culture et de leur art. Ouais, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est leur manière, c'est la manière dont les artistes chinois intègrent la tradition à la modernité. Ouais, dans leur travail. J'avais aussi rencontré des artistes qui travaillent avec des techniques traditionnelles chinoises comme la calligraphie et la peinture en même temps. Et ils travaillaient beaucoup, ils faisaient la peinture à l'encre. C'est beaucoup de choses. J'ai oublié les choses que j'avais vues, mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est ça. est essentiel encore dans la nouvelle.
En 2012, tu participes à la deuxième édition et dernière d'ailleurs de la Biennale du Bénin. Tu proposes une installation avec tes peintures en noir et blanc au Centre Unique à Abomey. Ce travail a attiré l'attention non seulement du public, mais aussi des professionnels du milieu. Pourquoi tu as pensé à une installation? C'était aussi pour la première fois que tu faisais une installation avec tes peintures. Enfin, la salle, oui, je me rappelle encore, oui.
Oui, moi-même, je me rappelle. Et j'ai choisi de faire une installation pour créer une expérience immersive pour les spectateurs parce que je savais qu'il y aura beaucoup de visiteurs en ce moment. Et j'ai fait des peintures en noir et blanc, pour rappeler.
Oui, très bien. Et le sol et, aussi, il était peint. Ouais.
Exactement, qui était disposé de manière à créer un espace qui invitait à la réflexion, parce que les peintures étaient au mur, au sol. J'ai peint le sol également. J'ai peint également le plafond. Mm. Oui, donc j'invitais à la réflexion et à la contemplation. Je voulais que les gens se sentent entourés par la...
Oui, qu'ils oublient tout le reste, oui.
Exactement. C'était une façon pour moi de jouer aussi avec la lumière et l'ombre. Surtout quand je peins en noir et blanc.
Une de tes premières séries de peintures s'appelait Apparition. Tu peux nous parler de ces apparitions? Je crois que tu avais commencé un peu à parler de
l'image. Justement, oui. Ça aussi, c'est une autre scène. Je crois que c'est la plupart des enfants africains, hein, je ne sais pas. On voit des scènes souvent dans les nuages. Il y a de moins en moins de nuages chez vous, en France, en Europe actuellement. Le ciel est tout le temps gris, mais en Afrique, on a quand même des mouvements de nuages qui nous permettent quand même de voir des silhouettes. On voit des animaux, des personnes, des personnages. Et moi, dans mon imagination, je pense que ça m'a aussi permis de dessiner, de savoir faire les mouvements. Donc moi, dans ma tête, dans mon imagination, j'essaie de compléter ces personnages qui ne sont pas forcément finis, qui ne sont pas bien dessinés par ces nuages. Et donc, je me dis, en même temps, tu le fais, tu dois le faire aussi rapidement pour que...
Avant que finir, la forme
avant
ne,
que ça,
oui,
ne disparaisse, ne s'estompe. Il y a aussi également les maisons abandonnées. Quand tu viens dans ces maisons-là, quand on regarde sur les murs, on voit également ces genres de silhouettes, de personnages, de formes qui ne sont pas véritablement finies. Et toi, avec ton imagination ou avec de la craie, tu essaies, quoi, si tu es curieux, tu essaies de finir. Donc, ce qui m'a mené à donner pour titre apparition à ma première...
à ta première série de peintures, oui.
Exactement. Donc, je m'étais beaucoup inspiré de ça.
Tu disais aussi, les hommes se côtoient sans même se connaître, sans même se voir. Ils se parlent sans même s'écouter. Et c'est pareil pour le monde qui nous entoure. Donc, tu voulais peindre aussi, quand tu as peint en noir et blanc, les visages invisibles du quotidien.
Oui, c'est très important, ce sujet-là, parce que c'est d'actualité. On se parle, on se dit des choses, mais on n'entend pas la même chose. La personne te dit quelque chose que tu n'entends pas. Et ça, c'est dans l'attention et c'est dans l'observation. Aujourd'hui, l'écoute, c'est-à-dire quand quelqu'un te parle, il n'y a pas que l'écoute le plus important, il y a l'attention aussi. Et quand on est attentionné, on peut observer ce que j'observais à l'époque, ce que les nuages me transmettaient. Moi, j'identifie cette scène-là à notre vie d'aujourd'hui. Vous voyez, on se côtoie sans véritablement se connaître. On se parle sans véritablement s'écouter.
Tu obtiens plus tard une résidence aux ateliers SAM, à Brazzaville, au Congo. Tu as fait une exposition de peinture, mais aussi un travail sur le tissu et une performance, une déambulation dans la ville. Tu as eu d'ailleurs le premier prix, là encore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une performance? Il me semble que c'était la première fois que c'était nouveau pour toi, ce médium.
Oui, avant, je vais recontextualiser un peu, avant la résidence à Brazzaville, j'avais été en résidence à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, et j'ai rencontré Bichwa, l'artiste qui avait organisé la résidence. Et j'ai beaucoup échangé avec les artistes quinois, et particulièrement avec lui, qui m'a expliqué, qui m'a montré, j'ai beaucoup appris. Et c'est en ce moment qu'on essaie de comprendre là, de la...
C'était un performant.
De la performance. de la performance. C'est un grand performeur. Même lors du festival à Obobo, il venait au Bénin. Et je pense que c'est l'un des artistes de notre génération qui nous a appris, surtout ceux qui ont eu la chance de discuter avec lui, de nous montrer, de nous transmettre l'art de la performance, le goût de la performance. Donc, j'avais également fait une performance en ce moment à Kinshasa. Et juste après cette résidence, j'ai eu la résidence de Brazzaville. Et là-bas également, j'ai eu à réfléchir à faire une performance là-bas.
En 2015, un enseignant français te remarque et te recommande auprès de la Galerie Valois pour une résidence à l'école de Beaux-Arts de Dijon. Qu'est-ce que tu as retenu de ce séjour en France? On disait à l'époque que ta peinture était abstraite, mais c'était pas vrai, parce que comme tu viens de le dire, il y avait toujours des visages, des personnages, même si c'était des esquisses, c'était pas vraiment... Il n'y avait pas que le geste, que la couleur. Il y avait toujours des silhouettes humaines ou animales. Tu as toujours été proche du figuratif, et cela s'est avéré en 2023, mais on en reviendra sur cette expo. Mais à Dijon, je dirais que c'est pour la première fois qu'il n'y avait plus de figuratif.
Il n'y avait plus de tout.
Il n'y avait plus. Tu en as fait quatre, il me semble, quatre grandes toiles.
Oui, je crois que le travail d'un artiste, à un moment donné, dépend aussi de l'endroit. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Je ne pourrais pas le dire, mais j'ai remarqué la même chose que toi, que les œuvres que j'ai eu à réaliser là-bas, il n'y avait pas de visage. C'était complètement abstrait. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis revenu au Bénin, j'ai continué avec les toiles que j'ai eu à faire après. Il y a le mi-abstraction, le mi-figuratif. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer. Peut-être c'est l'endroit. Et ce que j'ai retenu, vous savez que c'est après mon séjour à l'école que j'ai commencé par faire des sculptures.
Oui.
Et j'ai remarqué que...
C'est ce séjour en France qui t'a amené aussi à ça?
Ah, exactement. C'est ce séjour-là qui m'a amené. J'ai eu des amis là-bas. Et à chaque fois quand on sautait, ils me tendaient une clope. Ils me tendaient de la cigarette tout le temps. Donc, Nathanaël, tu vas pas, tiens. Donc, moi, je disais, comme j'ai pas l'habitude de fumer, et je dis non, merci. Donc, ça devenait récurrent. Ça dit, c'était pas volontaire. Bon, c'est devenu une habitude pour tes amis-là de me donner, ah, tu vas fumer. Je dis non, tiens, merci, je ne fume pas. Donc.
C'est là ton travail sur les addictions, c'est ça, qui a commencé.
Exactement. Donc, je lui ai posé la question à cet ami-là, est-ce que. Ce que tu me fais, ce que tu fais tout le temps quand tu me donnes, est-ce que c'est volontaire ou bien c'est une habitude? Et il me disait, bon, c'est un peu des deux. Je lui ai également posé la question de savoir, est-ce que quand tu fumes tout le temps comme ça, est-ce que c'est volontaire ou si c'est devenu une habitude pour toi? Il me dit, mais que cette question, c'est au même moment où je suis en train de lui poser la question, est-ce que lui-même, il réfléchit, il pense à ça. Donc, je me suis dit, mais il y a sujet, quoi. Moi, il doit penser maintenant que je lui ai posé la question. Donc, ça veut dire que ça, c'est une dépendance. Ça, c'est quelque chose que lui-même ne comprend pas. Après ça, on a eu à discuter des additions aussi lors des séances à l'école. On a fait une séance avec M. François Guesman. Et on a eu à parler des addictions, on a parlé des OGM et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup apporté. Ce qui a fait que j'ai commencé par réfléchir. Parce que déjà, moi, c'est l'idée qui m'amène vers le médium que je dois utiliser. Je fais un travail de réflexion avant la réalisation de tout œuvre. Donc, quand j'ai eu cette idée, je me suis posé la question de savoir est-ce que je vais le faire en peinture? Est-ce que je vais le faire en installation? Est-ce que je vais le faire en performance ou en sculpture? Et quand je veux faire un travail, je pense au public, je pense aux visiteurs, je pense à tous ceux qui verront le travail.
Au destinataire.
Donc, exactement, de l'interaction avec le travail et le public et le message que j'aimerais passer. Donc, cette réflexion-là m'a amené tout droit vers la sculpture. Je n'avais jamais pensé faire la sculpture. Et de cette manière-là, en tout cas. Donc, c'est cette idée-là que j'ai eue qui m'a amené vers la sculpture.
Mais ça t'a amené vers la sculpture sur bois, pas sur pierre.
Sur bois ouais. Particulièrement. Mmh. Je peux faire des sculptures en métal, mais ça dépendra de l'idée. Mmh. C'est un peu mon séjour en France, particulièrement à l'école des Beaux-Arts de Dijon.
Mais c'est un travail qui est très différent de la peinture, est-ce plus physique aussi? Est-ce que ça t'a...
Oui.
Tu as dû apprendre à le faire d'une manière que tu ne l'avais jamais fait.
Oui, au début, bon, quand on sait dessiner, on pense qu'on peut sculpter. On pense déjà qu'on peut sculpter. Quand tu sais dessiner, on se dit que sculpter serait aussi un peu facile pour nous de modeler. Donc, je n'ai pas étudié en tant que tel, mais j'ai fréquenté un à
Ah, avec Sébastien Bocco, c'est ça?
Non, avec son grand frère, avec le grand frère de Sébastien Bocco, il s'appelle Elias Bocco. Et je l'ai beaucoup fréquenté. Quand il travaillait, je venais voir ce qu'il faisait.
Et
Donc, je lui
après,
posais aussi des
tu as
questions.
brûlé le bois. Donc, tu le sculptes, tu le tailles et tu le brûles.
Oui, ça, c'est dans la démarche. Quand je récupère le bois, je sculpte d'abord en lui donnant une forme humaine sur la partie supérieure. Et comme le bois est vertical, donc le roux, je sculpte, je lui donne une forme humaine. Et après, je brûle cette forme-là, je brûle cette partie supérieure-là qui est sculptée.
C'est
Et
la diction.
après, exactement. Exactement, c'est pour montrer un peu l'addition, ses conséquences. Aujourd'hui, on a cette addition-là dans tout. C'est déjà dans nos habitudes. Hein.
Parce qu'au début,
Et
tu sculptais des
justement.
cigarettes.
Oui, je continue. C'était une métaphore. C'était juste
Oui.
pour montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'additions. C'est pour parler de toutes sortes d'additions qui puissent exister. Donc, c'est comme ça, on se consomme, on consomme des choses qui nous consomment en retour. D'où je parlais un peu de consommation, consommation.
Pier Paolo Pasolini disait dans les années 60 que l'avènement de la société de consommation détruit nos particularités, les uniformise et efface, que nous sommes en danger de nous transformer en machines en collision les uns avec les autres. Lorsqu'on regarde 50 ans plus tard, ne serait-ce que le nombre de téléphones qui font écran aux relations humaines et empêchent toute communication, on se dit que des mutations sont en train de se produire. Que traces indélébiles, elles s'insinueront dans notre ADN. Il me semble que ton travail interroge ces mutations qui sont en route. Tu avais parlé des addictions, tu as parlé des OGM, tu parles des relations entre les humains, de toutes ces addictions que ce soit les cigarettes, produits de beauté. J'ai raison? Tu parles de ces mutations qui sont en route?
Oui,
Ça t'intéresse?
ce n'est même pas en route, ces mutations sont arrivées déjà. C'est ce que nous vivons au quotidien. C'est triste et c'est terrible. La difficulté, c'est que on remarque et on essaie de faire des efforts pour s'échapper. Mais est-ce qu'on y arrive? Parce que après, on ne sait plus où se trouve le progrès et cette addiction-là. Tout est un grand mélange. Et après, on est en plein dedans et on se dit, on fait des efforts pour... C'est un cercle vicieux. C'est terrible pour notre planète. En tant qu'artiste, moi, j'essaie de toucher du doigt dans mon travail, j'essaie de montrer.
Il y avait un texte qui figurait dans la présentation de ton travail qui disait: l'administration répétée de drogue entraîne dans certaines structures cérébrales une importante plasticité synaptique dont la mise en place et le maintien nécessitent l'expression de nombreux gènes. L'hypothèse proposée ici est que des régulations épigénétiques participent à l'installation de cette adaptation persistante. Le point est fait sur la question de la méthylation de l'ADN en réponse aux drogues et l'accent sera mis sur la protéine, dont je ne veux pas citer le nom, trop compliqué, qui se lie à l'ADN méthylé. J'ai cité Jean Zwiller du laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives de l'Université de Strasbourg, faculté de psychologie. Donc il y a cette idée que toutes ces choses qui se passent, les addictions, etc., peuvent influer et modifier notre ADN.
Oui, ce qu'il dit, c'est purement scientifique.
Oui, c'est une hypothèse, mais...
Ouais, c'est terrible. Quand je pense à ça, je flippe.
Tu allumes une
On
cigarette.
continue. On continue.
On continue.
Odé, ah oui. Odé, ah oui. Attends, Enne. Même le sol, ça fait 400 ans sur le sol, ça ne pourrit jamais. C'est pour cela que nous aimerons que tout le monde chante avec nous maintenant. Hein? Maintenant, dit Akiza Hami. Je vous entends, hein? Akiza. Hein? C'est bon? Écoutez, on va aller ensemble. Ça y est.
Ah, Akiza. Elo Nazaï, l'eau.
Voilà, l'eau. La deuxième fois.
Akiza. Elo Nazaï.
Je vais entendre les amis chanter là, je vais voir. Ok. Yeah. Ah, ça, c'est bon ça, j'aime ça. C'est qui ça? C'est Marie? Et lui derrière là-bas, il chante pas là. Où est Jeff là? Ça, c'est bien ça. J'aime ça, j'adore ça. Encore une fois pour moi. Hein?
La galerie Valois oui. accompagne ton travail depuis 2017. En 2018, elle propose une exposition de ton travail sur les addictions. D'autres expositions ont suivi. Tu as une galerie à Lagos, au Nigeria, Alexis Gallery, qui te représente. Comment vois-tu ce travail avec les galeries? Quel est leur impact dans la diffusion de ton travail? Est-ce que tu sens une certaine attente de leur part? Ou tu te sens libre de tes choix artistiques?
Moi, j'ai toujours été libre en tant qu'artiste dans mon travail, dans mes choix de sujets et tout. Et après, tout artiste a besoin, je pense, que son travail soit vu ou bien qu'il présente. Il a besoin que son travail soit dans d'autres endroits aussi, mis à part chez lui. Vous voyez, donc, quand tu es artiste, tu aimerais quand même que ton travail soit vu par d'autres personnes. Et les galeries, en partie, ils le font. Tu peux être béninois. Moi, je suis natif béninois. J'ai mon travail un peu partout aujourd'hui. Donc, qui permet à d'autres personnes de toucher, d'entendre ce que je dis, de voir et d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, les galeries, avant tout, jouent ce rôle-là. Lors des fois, lors des grandes expositions, le travail d'un artiste qui est dans un contrée aussi lointain peut être vu par ceux qui sont dans un autre contrée. C'est un peu la mondialisation aussi. Donc, les galeries jouent ce rôle. Mais mis à part ça, moi, dans mon travail, je n'ai pas d'influence venant de galeries. Il y a des galeries qui ont des particularités. Vous savez, il y a des pays qui peuvent être beaucoup plus intéressés par tes peintures que tes sculptures. Il y a d'autres galeries qui préfèrent plus des sculptures aux peintures. Et d'autres, les peintures que les sculptures.
Mais tu ne te sens pas obligé de faire quelque chose qu'ils pourraient attendre de toi?
Non, normalement, un artiste, ce n'est pas que le beau. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, on a l'impression que les gens ne jugent que des œuvres d'art par leur beauté. Et l'artiste ne peut pas se fier seulement à ça. C'est ce que l'artiste ressent, c'est ce qui vient de son vécu, c'est tout ça. Ça ne peut pas tout le temps être beau comme les gens le veulent. Donc, parfois, on fait des œuvres que les gens n'arrivent pas à comprendre forcément. Mais on ne peut pas changer ça. Quand on pense seulement à l'argent, il y a des artistes qui s'y prêtent bien au jeu. Mais il faut dire ce qui sort de nous, que nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas. Et qui peut-être n'est pas forcément beau, n'est pas joli à voir. Il y a aussi ça, à ce que l'on fait.
Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce travail d'artiste?
C'est la liberté que moi j'ai. Hein. Ça me permet de comprendre ma vraie nature. En fait. Ça me permet de... C'est complexe. Hein. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. À un moment donné, vous savez que je pense que je ne suis pas l'artiste. Hein. Je pense qu'il y a une force, il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous guide, au fait. C'est tout, c'est la beauté dans ce que nous faisons. C'est vrai, c'est une passion, on aime le faire, on gagne de l'argent aussi. Mais c'est ce côté qu'on a de créer. C'est comme si nous sommes des petits créateurs, des petits dieux. Parce que quand tu suis vraiment, quand tu crées, c'est tout beau. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est ça ce qui me passionne. Et ça n'a pas de limite, ça n'a pas de frontière, ça n'a pas de prix. C'est juste comme ça. On peut créer quelque chose.
Nous allons clore cet entretien par un poème de Pablo Neruda et nous nous donnons rendez-vous, Nathanaël, pour poursuivre le dialogue dans un deuxième entretien.
D'accord.
Il meurt lentement. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours le même chemin. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant. Risque-toi aujourd'hui. Agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. Merci, Nathanaël.
Merci, Fabiola.
Thank you. Thank you.